maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, c'est Eric Anuis qui nous accueille presque sur son stand, on n'est pas loin de son stand. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors, deuxième salon de Essen pour Flatline Games, on a eu un Rumble in the House qui a super bien fonctionné, puisque tu étais quand même ravi de voir que le premier tirage de 3000 boîtes s'est diffusé assez vite, et donc on est sur un retirage. Et maintenant tu es de retour avec un jeu qui s'appelle Twin Tin Boss de Philippe Kayart, et qui est, tu l'as présenté à la presse, sous un mode Kickstarter ululé international, waouh. Quel est le statut déjà que tu fais sur Rumble in the House, qui justement a évolué, et puis après on passera sur Twin Tin Boss.
Rumble in the House, donc c'était un premier tirage de 3000 exemplaires, c'est parti en quelques mois après Essen l'an passé. On a fait un retirage qui est déjà épuisé. On a fait encore un autre retirage de 3000 exemplaires qui vient d'arriver ici. Et en fait, on en a sur le stand, mais l'essentiel est déjà parti en distribution parce qu'ils sont en train de pleurer pour en avoir sur les rayons. Le jeu commence à fonctionner très bien au Canada. On va en envoyer par avion au Canada pour qu'ils les aient pour les fêtes de fin d'année. Et alors, en même temps, on sort ici Rumble in the Dungeon, qui est la version donjon de Rumble in the House. C'est le même jeu dans un donjon, avec en plus une caisse au trésor. Il y a moyen de partir, sortir avec le coffre au trésor pour gagner la manche avec un personnage. Et il y a évidemment moyen de combiner les deux. On a un lien entre la cave de l'appartement et l'entrée du donjon qui permet de jouer jusqu'à 12 personnes. Et c'est exactement la même taille. La boîte est blanche, on peut combiner les deux. C'est le même niveau de prix aussi. Donc on a vraiment. C'est une standalone expansion, comme on dit chez les barbares.
Et donc justement, ce dungeon, ce Rumble in the Dungeon, tu peux le jouer tout à fait classiquement, mais tu as ce côté trésor. C'est quoi ? On a de toute façon un personnage secret et finalement on traîne un trésor pour la sortie ?
Donc les règles sont exactement les mêmes que Rumble in the House. Chacun a deux personnages secrets. On essaie de virer les autres et de rester le plus longtemps possible pour avoir des points. Alors la caisse au trésor, quand on est dans une pièce où il y a le coffre, s'il y a plusieurs personnages, on peut quand même se casser pendant qu'ils sont en train de se battre entre eux avec le trésor. Donc c'est une exception à la règle normale qui fait que quand on est plusieurs, on ne peut pas bouger. Et il y a une entrée qui est définie. Et donc, si on sort par l'entrée avec le coffre au trésor, et on ne peut y sortir qu'avec le coffre au trésor, alors ce personnage-là aura les 10 points, le dernier en jeu aura 9 points, et ainsi de suite.
Alors, on peut juste réexpliquer en 20 secondes, parce qu'il ne faudra pas plus, le fonctionnement de Rumble in the House.
Donc, Rumble in the House, chaque joueur a deux personnages secrets parmi 12 qui existent. Donc, on sait qui on est, on ne sait pas qui est qui. Un personnage par pièce, il y a 12 pièces au début. Et à son tour, on peut soit déplacer un personnage qui est tout seul, et ça, c'est important. S'il n'est pas tout seul, on ne peut pas le déplacer. Soit on choisit une pièce où il y a plusieurs personnages et on en tue un. Et alors, la mécanique pour le tuer est extrêmement simple. On approche le pouce de l'index, on le prend et on le retire du plateau de jeu.
Manipulation dangereuse. Ok, donc ça, c'est effectivement une fameuse histoire. Encore une fois, ça s'est vu plusieurs fois. Et je suis ravi de voir que ça se perpétue. C'est un jeu où on dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu complètement débile, et finalement ça touche tout le monde.
Oui, tout à fait. Et quand je donne les chiffres de vente à l'auteur, il a chaque fois la même réaction, c'est je ne comprends pas.
Ok, donc fort de ce premier jeu, du premier jeu qui était Dragon Rage, qui était un peu plus confidentiel, parce que ciblé vraiment du confidentiel, voilà, vers du confidentiel. On a Rumble qui a fait un peu exploser Flatline Games. Et maintenant, tu tapes dans du Twin Tin Bots, qui est un jeu de Philippe Kayart, qu'on connaît évidemment avec des Olympos, des Vinci, des Small World, et qui n'a plus à faire de preuves. Le seul truc, c'est que tu expliques très ouvertement à travers ton communiqué de presse que voilà, des jeux qui fonctionnent, c'est bien. Maintenant, on a de quoi refinancer les retirages à la vie de ces jeux-là, mais maintenant, faire un nouveau jeu, on n'y est pas encore. Donc, on va sur du crowdfunding.
C'est exactement ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que comme Rumble marche très bien, on imprime 3000, on les vend, l'argent revient. On imprime 6000, on les vend, l'argent revient. Et puis on en réimprime plus, etc. Et donc, pour le moment, tout mon pognon, il est dans des boîtes. C'est du pognon qui va revenir après, donc c'est une excellente nouvelle. Mais ça veut dire que sortir un gros jeu tout de suite, c'est difficile. Or, le jeu de Philippe, c'est un jeu dans lequel on a beaucoup discuté. On veut des figurines en plastique parce qu'avec des bouts de carton, ce ne sera pas le même jeu. C'est vraiment le fait d'avoir des robots, d'avoir des gemmes qui viennent se mettre sur les robots, ça fait vraiment une différence en plaisir de jeu. Et ça veut dire que c'est une grosse boîte avec 36 figurines en plastique. C'est un jeu qui va coûter à peu près 40 000 euros à produire. Et il faut les sortir. Alors, je pourrais produire le jeu fin 2014, le temps d'économiser tout cet argent-là. Je trouve que c'est vraiment pas... je vais pas dire honnête, mais c'est pas juste par rapport à un auteur de s'asseoir sur son jeu pendant 2 ans avant de le sortir. Et actuellement, le fait de faire du crowdfunding permet justement d'accélérer ça. Donc j'en ai parlé à Philippe, on a discuté, on tente l'expérience. Le jeu est actuellement sur Kickstarter et pour la francophonie, on l'a mis sur Ulule aussi pour que les francophones puissent avoir un site entièrement en français avec tous les détails en français, parce que Kickstarter, quand on connaît pas bien l'anglais, ça fait un petit peu peur. Il y a quand même pas mal de trucs et ce sont des offres commerciales qui sont assez complexes finalement, puisqu'on peut avoir le jeu avec le t-shirt, des robots qui brillent dans le noir, enfin il y a un tas d'opportunités. Donc
une version métal à 3 000 euros,
une version en acier, bah oui, bah il fallait des full metal robots. c'était indispensable. Et donc toutes ces options-là font que c'est un peu complexe. J'ai mon nouveau distributeur américain qui est Game Salut qui gère le Kickstarter, parce qu'en plus un vendeur européen ne peut pas vendre sur Kickstarter, il faut avoir une adresse aux États-Unis, une carte de crédit aux États-Unis. Donc c'est mon distributeur américain qui pilote la campagne aux États-Unis et on espère donc arriver, ça se termine le 15 novembre, il faut qu'on ait récolté 40 000 dollars sur le site américain pour pouvoir faire le jeu. Si on a ces 40 000 dollars, alors on lance immédiatement la production et on aura le jeu aux alentours du festival de Cannes, c'est-à-dire pour mars. Si le Kickstarter se casse la gueule, ce qui est une possibilité, hein, parce que c'est justement... je vais dire de la souscription ou de la précommande. Donc si on n'arrive pas au seuil, alors dans ce cas-là, aucune des personnes qui avaient effectué la précommande ne sera débitée de sa carte de crédit la campagne est simplement annulée. C'est comme si c'était rien passé, c'est une opération blanche, ça ne nous coûte rien. Mais du coup, alors il faudra plus d'un an pour faire le jeu. Et donc j'espère bien que ça ne va pas se produire. Donc il faut en parler un maximum à un maximum de gens, dire voilà, le nouveau jeu de Philippe Cayarts, on peut le faire sortir presque un an et demi, si pas 2 ans plus tôt, en allant le supporter maintenant sur Kickstarter.
Et donc les 40 000 euros sont liés au fait que c'est des figurines. 40 000 dollars, pardon.
40 000 dollars, oui. En fait, ça fait à peu près 30 000 euros. Donc l'idée, c'est que quand on fait un jeu avec des figurines, elles ne sont pas faites en pâte fimo par des enfants chinois. Hein. C'est un moule en acier dans lequel on injecte le plastique. C'est de l'industrie lourde. Et un moule, ça coûte super cher. Donc une fois que le premier tirage est fait, après, on peut faire... en fait, si on fait 3 000 figurines ou si on en fait 10 000... le coût change pas beaucoup parce que le coût de moule est tellement important qu'on a, ce blocage au début. Et puis à côté de ça, ça reste un gros jeu avec un plateau recto verso, avec plusieurs planches de tuiles. Il y a 3 planches de pions à l'intérieur, il y a une règle multilingue, etc. etc. Donc oui, ça coûte des sous, quoi. En fait, il y a un coût de fabrication qui est incompressible à partir d'un certain point. Je veux dire, ou alors il faudrait en faire 10 ou 20 000, mais ça n'a pas de sens pour une petite société, et même les grosses d'ailleurs le font de moins en moins, de faire une immense quantité tout de suite. Et même si je fais 10 000 exemplaires pour avoir un meilleur prix à la pièce et que je vends le jeu moins cher, ça veut dire que je ne pourrai jamais en refaire à moins de pouvoir en refaire 10 000. Là, je veux être certain que si le jeu fonctionne bien, mais qu'il y a après l'opportunité d'en refaire que 3 000, je puisse en refaire 3 000. Donc c'est vraiment, c'est un jeu de chiffres en fait, hein. C'est vraiment ça, c'est de la gestion de ressources comme d'habitude.
Des cubes en bois. Donc là, les 40 000 dollars, c'est pour un tirage de 3 000 boîtes.
Voilà, tout à fait. C'est pour arriver à faire un tirage de 3 000 boîtes. Le jeu dans le commerce sera normalement à 55 euros. On arrivera peut-être à le descendre un peu. Ça dépendra d'une série de facteurs. Et si on le prend maintenant sur Kickstarter ou sur Ulule, on peut l'avoir à 45 euros, frais de port compris, pour les États-Unis, la Belgique et les pays voisins de la Belgique, donc la France, la Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre. Et on va être sympa, le Luxembourg aussi.
D'accord. Alors, justement, qu'est-ce que Twintin Bots ?
Alors, Twintin Bots, c'est Roborally sans le hasard. Donc, on a un plateau à hexagone avec toute une série de cristaux. Et chaque joueur a une base et 2 petits robots. Et on va programmer ces petits robots avec des instructions simples, avancer, tourner à gauche, tourner à droite, prendre une gemme, la déposer, etc. Pour aller chercher les cristaux et les ramener dans sa base pour obtenir des points. Donc il y a des cristaux avec 2 cristaux dessus, c'est 2 points, 3 cristaux c'est 3 points, 4 cristaux c'est 4 points. Et à la fin de la partie, le joueur qui a ramené le plus de cristaux gagne la partie. La grosse subtilité, c'est que, premièrement, on a toujours tous ses ordres sous la main. Donc contrairement à Roborally où on doit parfois faire 4-5 tours avant d'avoir le avancé 3 dont on a besoin ou un truc du genre, ici, si je veux avancer, j'ai toujours ma tuile avancée. Chaque robot a 3 slots pour mettre des ordres. Et la grosse subtilité, c'est que je peux changer un seul truc sur un seul robot à chaque tour. Donc si j'ai un robot qui avance et l'autre qui tourne, au tour suivant, je peux dire, tiens, ben, celui qui avançait, il va continuer à avancer et puis il va tourner. Et l'autre robot, j'ai rien pu changer, donc il va retourner de la même façon. Philippe, il dit, c'est comme avoir deux voitures radiocommandées et une seule télécommande, ou comme avoir deux enfants dans un parc d'attractions et d'essayer de les avoir tous les deux sous la main. Enfin, c'est, y en a un qui vit sa vie pendant qu'on est en train de gérer l'autre, et il faut passer de l'un à l'autre en permanence pour arriver à faire ce qu'on veut. Alors, au début, c'est hard, hein. Il faut être très clair. Ces robots Rally Plus, y a vraiment, les règles sont extrêmement simples. On a essayé avec des gosses de 8 ans, ils s'en sortent. Mais après, pour arriver à faire ce qu'on veut au robot, c'est une autre paire de manches parce que les situations en jeu sont complexes. On se pousse, on se pique des gemmes, on se tire dessus pour forcer les autres à exécuter un ordre du genre avancer ou tourner ou quoi. Chaque fois qu'une gemme entre en jeu, elle entre en jeu au centre du plateau de jeu, ce qui fait que ben, y a toujours un contentieux qui est évident, on est toujours en train de revenir aux mêmes endroits pour aller chercher. Malgré tout ça, il n'y a aucun hasard, on sait exactement ce qu'on fait, et les parties durent une heure maximum, même à 6 joueurs, même avec des lents qui mettent 4 heures à faire un tical parce qu'ils veulent tout analyser en détail, ça tient à chaque fois en une heure, et le tour de table fait très rarement plus de 2 minutes, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer non plus.
Ok, donc ça c'est carré, bien simple, et on retrouve un Philippe Kerz là-dedans, dans le sens où il y a de l'expérience, il y a de la subtilité, juste ce qu'il faut. Ok, ma dernière question c'est, imaginons que TwinTinBots fonctionne, on le souhaite évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, bah, TwinTinBots va rentrer dans la logique de Rumble in the House, c'est-à-dire qu'il va y avoir des retirages, et donc l'argent que tu vas gagner sur TwinTinBots va permettre de retirer des TwinTinBots. Ça veut dire que le prochain jeu de Flatline Games va aussi passer sur du crowdfunding?
Pas forcément. En fait, j'estime que pour arriver sur un site et pour demander des sous aux gens, il faut être en position de le faire. Il y a des éditeurs qui ont largement les moyens, qui débarquent sur Kickstarter. Tout le monde ne voit pas ça de manière très, très auspicieuse. Et même les joueurs, les clients, pour employer un gros mot, se disent « mais qu'est-ce qu'ils foutent là en fait ?» Ici, on a une raison bien précise d'y être. C'est un jeu qui coûte cher, on ne peut pas le financer en propre avant très longtemps. Il y a d'autres éditeurs, Steve Jackson Games, c'est le très bel exemple avec son Ogre qui a été un succès énorme. Il n'était pas du tout sûr qu'il y avait un marché. Il espérait en vendre 3000, il a fait plus d'un million de dollars parce qu'il y a plein de gens qui voulaient son jeu. Donc il s'est rendu compte qu'il y avait une raison. Donc pour certains éditeurs, même des gros éditeurs, hein, je veux dire, si un Asmodée se pointe sur Kickstarter avec un jeu qui est très très risqué, ça va surprendre personne et les gens vont dire tiens oui, c'est une bonne idée de l'avoir fait. Plutôt que de se dire non, c'est trop risqué, on le fait pas quoi. Mais il faut vraiment avoir une bonne raison pour arriver sur ce genre de plateforme et il faut que ça tienne la route. Et donc, si le prochain jeu que je fais après TwinTinBots est un petit jeu de cartes qui coûte pas cher à faire, ben, je le ferai en fonds propres parce qu'il y a de fortes chances que je puisse le faire en fonds propres. Si soyons fous, on se lance dans un jeu de figurines pré-peintes d'escarmouches, ça c'est le genre de truc où il faut faire 10 000 exemplaires. Là, on parle plus de dizaines, mais d'au moins une centaine de milliers d'euros. Ben, là, c'est clair que de nouveau, ce sera un appel à financement ou c'est un truc qui prendra très longtemps à faire. Donc il faut vraiment avoir une bonne raison de le faire si on veut le faire, sinon ça tient pas la route. Et d'ailleurs on voit les campagnes, du coup ça floppe parce que les gens se disent ils ont rien à foutre là quoi.
Parfait, bah écoute, on se retrouve l'année prochaine si pas avant pour voir justement, et en espérant que TwinTinBots soit sorti. Merci Eric.
Merci beaucoup.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.